Parcours intérieur, saison 2, le podcast qui vous dit tout sur la préparation mentale.
C'est peut-être la chose la plus précieuse qu'on a, c'est notre identité. Savoir d'où on vient, pourquoi on est là, quel est notre style. Et respecter son identité sous pression, ça n'a pas de prix. Le golf, il va tout faire pour nous faire sortir de notre zone de confort, pour nous faire oublier qui on est, pourquoi on est là, oublier sa bienveillance, oublier le respect.
Univers ultra compétitif au plus haut niveau, le golf est parfois assimilé à un combat. Contre les autres et surtout contre soi-même, en particulier pour les amateurs. Le talent et le travail sont bien entendu les clés logiques du succès. Mais quel est le rôle du respect, de l'honnêteté, voire de la bienveillance? Ces qualités essentielles, ces codes d'honneur, sont-ils partagés par tous les champions et nécessaires pour atteindre la performance? Et du côté des golfeurs amateurs, peut-on également s'en inspirer? Ce sont justement ces questions que j'ai le plaisir d'aborder aujourd'hui avec Makis Chamalidis. Bonjour Makis.
Bonjour.
Nous avions eu la chance de vous recevoir dans ce podcast. Alors on le rappelle, vous êtes docteur en psychologie, vous accompagnez sportifs et entraîneurs de haut niveau depuis plus de 25 ans. On va démarrer en écoutant Martin Couvrat avec lequel vous travaillez justement depuis près de 2 ans maintenant.
Bah, pour moi, un champion, c'est quelqu'un qui est respectable dans tous les secteurs de la vie, que ce soit dans son sport, que ce soit dans la vie de tous les jours. C'est quelqu'un qui va forcément très bien se comporter à l'extérieur et à l'intérieur du terrain. Il va être forcément respectueux. Pour moi, c'est être un bon champion et un beau champion. C'est un mec qui domine quelque chose. C'est pas quelqu'un qui a une mauvaise attitude, qui a un mauvais comportement. C'est quelqu'un qui est respectable, qu'on respecte. Et c'est quelqu'un qui respecte tous les gens qui lui entourent. Il doit être respectueux envers son staff, envers lui-même, envers tous ses adversaires. Enfin, pour moi, tu vois, un exemple qui me vient direct à l'idée quand on parle d'un mec qui a dominé son sport et qui en plus était un vrai, on va dire, gentleman, c'est Federer. Enfin, je pense qu'il y a très peu de monde qui va dire l'inverse sur ça. Il y a Nadal. Dans le golf, on peut parler de Rory, je trouve. Pour moi, c'est ça. C'est d'abord, il faut être un champion, forcément, mais il faut que l'attitude aille avec. Il faut avoir aussi l'attitude du champion.
C'est Martin Couvrat qui fait partie des meilleurs joueurs amateurs français qui vient de nous décrire les valeurs nécessaires, selon lui, à la performance sportive. Alors Makis, quelle est la définition de la bienveillance et du respect dans le sport?
Alors pourquoi faut-il être bienveillant? Pourquoi faut-il être respectueux en tant que sportif? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est déjà, si on commence par la bienveillance, ça veut dire quoi, être bienveillant? C'est avant tout accueillir des émotions de soi-même, parfois de l'autre aussi, mais sans les juger, sans être critique. D'ailleurs, chez les psys, on parle souvent de neutralité bienveillante, justement pour être à sa place, pour trouver une bonne distance aussi avec ses émotions. Et cela permet aussi de se valoriser malgré les erreurs qu'on peut faire sur un parcours, malgré des maladresses. Et être bienveillant, ça peut passer par un regard, par un geste, par un mot. Il y a même un vocabulaire qui est bienveillant, on en parlera tout à l'heure. Mais c'est veiller à quelqu'un, veiller à soi-même pour se protéger, pour s'accorder le bénéfice du doute. Et à ce moment-là, je veux bien aussi distinguer la bienveillance par rapport à la complaisance. Être bienveillant, ça doit être quelque chose d'authentique qui vient de l'intérieur et ce n'est pas que des manières. Donc j'ai envie de dire, être bienveillant, ça aide pour rester dedans, ça aide aussi pour être endurant mentalement. Ça c'est la première partie. Pourquoi être respectueux? J'ai envie de dire respectueux, d'accord, mais par rapport à quoi? Par rapport aux règles, par rapport à l'adversaire, par rapport à soi-même. Évidemment, c'est une bonne chose quand on est respectueux. Mais le golf veut aussi qu'on respecte soi-même, son identité. C'est peut-être la chose la plus précieuse qu'on a, c'est notre identité. Savoir d'où on vient, pourquoi on est là, quel est notre style. Et respecter son identité sous pression, ça n'a pas de prix, notamment quand on joue une partie, parce que le golf, il va tout faire pour nous faire sortir de notre zone de confort, pour nous faire oublier qui on est, pourquoi on est là, oublier sa bienveillance, oublier le respect. Donc c'est toujours un bon challenge quand on se retrouve au putting green, sur le practice, mais aussi sur le parcours, de garder en tête ces deux notions-là.
Mais donc c'est aussi important d'être respectueux et bienveillant envers soi-même qu'envers les autres.
Oui, mais j'ai presque envie de dire, comme c'est un jeu où on est beaucoup tourné sur soi-même, c'est vraiment important de rester déjà sur soi. Qu'est-ce qui dépend de moi? Qu'est-ce que j'ai à faire? Or, il y a d'autres sports où il y a beaucoup plus de dualité, de duel, où il faut battre quelqu'un, gagner contre quelqu'un. Là, encore une fois, on joue contre soi-même, contre le parcours, contre les autres. Mais commençons déjà par nous. Et souvent, ça déteint sur les autres. Quelqu'un qui reste respectueux, qui s'occupe bien de lui, il dégage des bonnes ondes et ça peut aussi déteindre sur les autres joueurs et joueuses.
Et ça permet aussi de se placer dans une logique constructive et non pas destructive.
Oui, et c'est tout l'intérêt du travail que chacun peut faire sur lui et sur son endurance mentale, parce que parfois on commence bien, mais dès que ça se coince, dès que ça devient compliqué parce qu'on n'a pas de chance ou parce qu'on ne joue pas bien ou parce qu'il y a des dégâts, on peut vite sortir de là. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir stretcher cette endurance du 1 au 18. C'est plus facile à dire qu'à faire parce que même les meilleurs, ils ont du mal à y arriver.
Et l'honnêteté là-dedans, quel est son rôle? Est-ce que l'honnêteté est aussi importante que la bienveillance et le respect?
Bon, après, ça dépend ce qu'on met dans honnêteté. Moi, je pense que déjà, l'honnêteté, c'est d'être honnête envers soi-même, être droit dans ses bottes. On ne va pas tout de suite parler de tricher ou pas tricher. Mmh. Mais moi, j'aime bien l'idée qu'on puisse dire « je suis un joueur honnête » ou « un honnête joueur ». D'un certain niveau, ça veut dire aussi je sais qui je suis et je respecte un certain nombre de règles, y compris, encore une fois, mon identité.
Donc c'est très important de définir cette identité et d'être en adéquation avec celle-ci.
Pour moi, c'est le cœur du sujet. Quelqu'un qui sait qui il est, quelqu'un qui sait d'où il vient et surtout si il veut y aller, ça n'a pas de prix parce qu'à un moment donné, le golf, il va tout faire pour nous sortir de nos gants et nous faire oublier pourquoi on est là, pour passer un bon moment, pour prendre du plaisir, pour taper des bons shots et se rappeler qu'est-ce que je sais bien faire, notamment dans les moments compliqués, ça n'a pas de prix. Et qu'est-ce que je sais faire, c'est aussi qui suis-je, quel est mon style, quel type de shot.
Et qui je veux être, et qui je veux être véritablement.
Oui, parce que combien de fois on sort d'une partie et on a presque honte parce qu'on en a trop fait ou on s'est excité pour un rien. Il y a plein de gens à qui ça arrive dans le golf et je pense que c'est pour ça qu'on aime aussi le golf. C'est un challenge avec nous-mêmes avant tout.
Et si on se comporte mal, si éventuellement on pousse à l'extrême et on se met à tricher malheureusement, est-ce que finalement on ne se pénalise pas soi-même?
Moi, j'ai envie de dire oui, on se pénalise au même titre qu'on se pénalise quand dans le trafic, on transgresse un feu ou les règles du code. Dans n'importe quel domaine, dès qu'on transgresse les règles, on prend un risque. Alors, il y a des moments où c'est bien de transgresser les règles parce que, par exemple, je vais m'autoriser à battre un joueur ou une joueuse qui est mieux classé que moi et que je ne respecte pas. Je ne respecte pas son classement, je respecte la personne ou le joueur et la joueuse. Mais c'est sûr qu'il y a des moments, il faut savoir ce qu'on veut aussi. Et pour faire une bonne partie, parfois pour gagner, ça veut dire aussi que parfois il faut rester sur soi, dans sa bulle, et qu'on ne va pas être la personne la plus agréable ou la plus communicative.
Et puis si on triche, j'imagine qu'on développe quand même un sentiment de culpabilité qui ne doit pas être très propice à la performance.
Oui, parce qu'il y a deux manières de tricher. Il y a tricher et ressentir ensuite de la culpabilité. Bon, ça, c'est, je pense que ça veut dire on est humain. Mais il y a aussi tricher et faire comme si de rien n'en était. Et là, on est dans le déni. C'est-à-dire, là, ce n'est pas acceptable parce que la personne en face va se dire « Mais comment peut-on jouer ensemble ?» Et le but, ce n'est pas non plus qu'un joueur ou une joueuse s'isole ou que plus personne ne veut jouer avec vous parce que vous trichez comme si de rien n'en était.
Si on revient un peu sur les champions, on sait bien qu'il s'agit de personnalités complexes. Donc, est-ce que cela veut dire que tous les champions ne sont pas automatiquement de beaux champions?
Alors, le beau champion, effectivement, pour moi, c'est quelqu'un qui, à la fois, sait gagner, sait laisser une trace. On a envie de se rappeler de cette personne-là parce qu'elle a marqué les esprits par aussi les valeurs que cette personne transmet, la loyauté, la combativité, le partage, la générosité. Mais est-ce que ces athlètes-là, ces champions-là, sont-ils dans la majorité? Pas sûr, parce que Je peux vous poser la question autrement. Connaissez-vous un métier où on peut arriver tout en haut sans jouer des coudes, sans en rajouter et à ce moment-là, voilà pourquoi le sportif serait-il le dernier des chevaliers blancs. Or, les hommes politiques et les femmes politiques aussi, ils sont, on peut leur reprocher plein de choses au niveau des valeurs. Les top managers, les meilleurs artistes. Qui...
Oui, donc il existe de beaux champions, mais ils ne sont pas très nombreux.
Moi, je pense que c'est la minorité. Pourquoi ? Parce que le chemin, il est tellement difficile pour aller en haut de la montagne qu'à un moment donné, voilà, il faut employer toutes les méthodes. Et parfois, voilà, toutes les méthodes sont bonnes pour y arriver.
Et quelqu'un comme le professionnel américain Patrick Reed, qui est assez fréquemment accusé de tricherie, est-ce que vous diriez que c'est un grand champion ?
Moi, je dirais non, parce que tu deviens un grand champion quand tu vas réussir dans les règles de l'art et que tu n'as pas besoin de tricher, de tricher avec toi-même déjà, mais aussi avec les autres.
Puis il y a aussi le rôle de modèle aussi.
Oui, quelles sont les valeurs qu'on transmet ? Est-ce qu'un parent va dire bah, il faut faire comme Patrick Reed ou comme n'importe quel autre athlète qui triche ? Et parfois c'est le dopage, parfois c'est tricher avec les règles.
Qu'est-ce qui les caractérise donc et les transcende, ces beaux champions, pour être si performants ?
C'est avant tout des personnes qui sont en mission, si j'ose dire. C'est-à-dire, la grosse différence entre le sportif de haut niveau et le champion, elle réside là. C'est qu'ils en veulent et ils sont habités. Je dirais même, il y a une forme d'obsession aussi qui fait que jour et nuit, ils pensent comment être performants. Et ils ont répondu à cette question. Qu'est-ce qui me rend performant ? Or, le sportif lambda, il va l'oublier régulièrement. Il va rester un peu plus dans sa zone de confort. Et les grands champions, ils sont constamment sur le fil du rasoir parce qu'ils sont obsédés par cette question. Ils n'ont pas peur de pousser leurs limites. Donc ça aussi, c'est des qualités, c'est des compétences, c'est des ressources. Mais après, il y aura certains qui rajoutent derrière aussi une valeur. Moi, je pense par exemple à la demi-finale à Roland-Garros en 1982. Ça date, certes, mais quand l'arbitre dit « jeu, c'était match », le vainqueur, Mats Wilander, il dit « non, on va rejouer le dernier point parce qu'il a été mal jugé par le juge de ligne et il était prêt à rejouer le point. Or, il aurait pu rentrer dans les vestiaires et dire « super, j'ai gagné ». Donc ça, c'est des moments où on se dit « ah, ça, c'est un grand ».
Tout à fait. Et diriez-vous alors qu'il est préférable d'être un beau champion ou un champion à tout prix, finalement ?
Bah, c'est aussi pour ça qu'on a consacré tout un chapitre dans le livre « Champion dans la tête » sur les beaux champions pour encourager les jeunes et les moins jeunes aussi à s'inscrire dans cette lignée. On peut réussir, pas à n'importe quel prix, mais en défendant un idéal. Et qu'est-ce qui se passe quand on défend un idéal ? Bah, on sort aussi de gagner ou perdre. On défend une cause qui est beaucoup plus noble et qui permet peut-être aussi plus facilement de se transcender.
Alors comment est-ce que vous expliquez le fait qu'on entend souvent parler du besoin de tuer l'adversaire pour réussir ? Est-ce que c'est un instinct reptilien ? D'où est-ce que ça vient cette expression ? Est-ce qu'elle est obsolète finalement ?
Il ne faut pas oublier qu'au départ, le sport, il vient aussi de l'art de la guerre, parce que les gymnastes, c'était des soldats au début. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on a un langage un peu fantasmagorique guerrière ? C'est qu'il y a souvent un duel. Et parfois, parce qu'on est obsédé, on s'invente aussi un adversaire, justement parce qu'on est en mission. Je sais qu'il y a des sportifs à qui ça leur parle, mais il y en a d'autres, ça ne leur parle pas du tout. Je me rappelle d'ailleurs d'une rencontre en Coupe Davis où un joueur était en train de gagner, il lui restait 2-3 jeux, et son capitaine lui disait « bon, allez, maintenant tu vas me tuer ce match ». Et à partir de ce moment-là, ce jour-là, il a plus mis une balle dans le terrain parce que ce vocabulaire ne lui parlait pas. Parce que tuer, en gros, ça veut dire conclure. Mais est-ce qu'il faut aller jusque-là, avoir un vocabulaire assez brutal ? Je pense que ça ne parle pas à tout le monde. Et ça montre aussi à quel point l'éducateur, l'entraîneur, le coach... Il doit aussi s'adapter à chaque personne. Quels sont les mots qui lui parlent ? Quels sont les mots qui lui coupent l'herbe sous le pied ?
Est-ce que ça pourrait être aussi le reflet d'une société qui est devenue narcissique ?
Bah, tu es quelqu'un, c'est peut-être pas narcissique en soi, mais c'est penser d'abord à soi-même. Et je pense qu'il ne faut pas confondre effectivement exigence et malveillance.
Oui, qui sont deux notions bien différentes.
Oui, oui, oui. S'il faut marcher sur l'autre pour gagner, dominer l'autre, oui. Parce que dans des sports comme le judo ou la boxe, bah, il faut aller jusqu'au chaos, au hippon. Dans le golf, c'est un peu différent parce que, encore une fois, on joue d'abord sur soi. Mais je sais aussi que Tiger Woods, il avait un père qui lui parlait comme ça. Hein.
Oui, à la dure.
Tue l'adversaire, le fair play, on verra après. Donc, or, c'est un grand champion. Donc, qu'est-ce qu'on garde des gens qui nous entourent ? Quelle valeur, quelle éducation, quel vocabulaire ? Et qu'est-ce qu'on transmet aussi par la suite à ses propres enfants.
Et j'aimerais revenir aussi sur cette notion de beaux champions et leur façon de fonctionner qui peut être utile aux golfeurs qui nous écoutent. Comment font-ils parfois pour que leur adversaire devienne leur allié, voire leur meilleur allié ? Pas facile.
Non, c'est pas facile, mais encore une fois, l'histoire du sport nous l'a prouvé. Les duels à distance, à une époque, c'était Magic Johnson, Larry Bird en basket, Nadal, Federer et aussi Phil Mickelson avec Tiger Woods. Tous ces gens-là, ils vont vous dire heureusement qu'il y avait l'autre parce que cette rivalité nous a tous les deux tirés vers le haut. Et ça, ça n'a pas de prix. Or, quand c'est malsain, quand on passe son temps à se critiquer, à tirer l'autre vers le bas, ça rime pas avec performance, ça rime aussi avec des émotions qui ne nous plaisent pas, la jalousie. Alors, la jalousie, elle peut me tirer vers le haut comme elle peut me tirer vers le bas. Mais quand je peux regarder mon adversaire dans les yeux et lui dire « bravo, bien joué, la prochaine fois c'est moi », c'est ça qui nous intéresse, se tirer la bourre, comme on dit, et tirer le meilleur de soi-même grâce à l'autre.
Et finalement, le golf, un peu comme le sport de manière générale, est-ce qu'il serait collaboratif ? Est-ce qu'on peut utiliser ce terme ?
Pourquoi pas ? Parce que collaborer, c'est aussi regarder ce que fait l'autre, s'inspirer de lui ou d'elle, se challenger mutuellement. Maintenant, travailler ensemble, ça peut être ça aussi. Parfois, sur un practice, je vois des joueurs, qu'ils soient amateurs ou professionnels, qui s'auto-coachent. Tiens, qu'est-ce que tu as trouvé ? Ça m'intéresse. Donne-moi un peu plus de biscuits là-dessus. Tu as un nouvel outil ou une nouvelle technique. Bref, je pense que le joueur, il est tout le temps à la quête d'amélioration. Et parfois, il va trouver un exo de putting, de perf chez quelqu'un. Bon. Il n'y a pas trop de secrets. Je pensais bien quand ça se passe comme ça. Après, si chacun veut rester dans son coin et travailler seul sans montrer ce qu'il fait, bon, pourquoi pas.
Quand on a préparé ensemble ce podcast, Makis, vous avez parlé de la camaraderie au golf, que l'on ne trouve pas toujours dans les autres sports. Ça, c'est quelque chose que vous avez vraiment remarqué quand vous avez travaillé dans beaucoup d'autres sports.
Oui, je pense que les sports de duel, on n'a pas spécialement envie de donner un avantage sur un futur adversaire potentiel, même si c'est un copain, dans le tennis ou dans les autres sports de duel. Or, chez les golfeurs, j'ai l'impression qu'ils sont plus aptes à partager, à faire venir un intervenant, un kiné ou un préparateur mental à deux ou à trois pour partager les frais. En tennis, ça ne se fait pas.
Ouais, donc c'est quand même quelque chose de très positif.
Oui, et des traditions, des rituels qui font que, notamment chez les pros, quand on gagne un tournoi, lors du prochain tournoi, j'invite tout le monde, tous les Français au resto. Bon, ça c'est des bonnes traditions, je trouve, et ça aide aussi parce que c'est des gens qui savent à quel point c'est difficile d'être un très bon golfeur. C'est vraiment très très difficile d'être un très très bon golfeur et surtout de tenir dans la durée, d'être un compétiteur régulier.
Vous travaillez aussi actuellement avec les jeunes du centre de performance de Terre-Blanche. Comment les préparez-vous spécifiquement à développer ces qualités si elles ne sont pas déjà intrinsèques ?
Justement, on essaie d'avoir un plan de progrès personnalisé pour chaque joueur, pour chaque joueuse. Et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de savoir d'où ils viennent. On passe du temps aussi avec les coachs qui les ont formés pour savoir comment les amener vers plus de performance. Et pour ça, on essaie à la fois de les responsabiliser, à la fois de personnaliser aussi leur formation et finalement de leur apporter une ouverture. si je dois résumer, responsabiliser, personnaliser et ouvrir. Et ça passe aussi par les faire réfléchir sur qu'est-ce qui me rend performant. Et à ce moment-là, petit à petit, on va les aider aussi à construire un peu leur bagage sur la partie mentale, leur must-have, si je dois le dire en anglais, par rapport au nice-to-have, parce qu'une fois qu'on va sur le parcours, il n'est pas question que de dire « j'espère que je vais amener mon swing du practice sur le parcours ».
Oui, est-ce que vous voulez juste dire, je vous interromps deux minutes, les must-have, c'est entre eux. C'est ce que vous devez avoir et les nice-to-have, c'est ce qui est agréable d'avoir. On peut le traduire comme ça.
Je dirais les must-have, c'est des indispensables. Indispensables. Effectivement. Et les nice-to-have, c'est bien de les avoir, mais on n'en a pas spécialement besoin. Je vais vous donner un exemple. Si un jour, vous devez raccourcir votre protocole d'échauffement de 5 minutes pour des raisons d'organisation, ça ne va pas vous empêcher de gagner. Donc, c'est un nice to have. En revanche, pour gagner, si vous ne mettez pas en place votre jeu, si vous ne respectez pas votre identité, ça va être difficile de gagner. Donc, ça, c'est un must have, un indispensable.
Et donc, quels sont ces garde-fous concrètement qui permettent de leur inculquer ces valeurs qui, donc, par la suite, leur permettront d'être bien dans leur tête, bien dans leur corps et ainsi d'atteindre les plus hautes performances ?
Les garde-fous, on aime bien les transmettre, mais aussi les co-construire. Pourquoi pas s'imaginer et créer des règles de vie qui font que les valeurs, ça se décline quotidiennement. Et pas que sur le terrain, mais aussi dans la vie de tous les jours. Parce qu'il y a des règles de vie sur le respect des espaces communs, le respect du matériel, le respect du timing. Mais ce n'est pas que respecter ces choses assez formelles, c'est aussi respecter la relation. Moi, je crois beaucoup dans l'idée qu'on peut développer une relation forte avec quelqu'un, notamment avec un entraîneur, mais malheureusement, souvent, ça va que dans un sens. Or, nous, l'idée, c'est aussi que les jeunes apprennent à entraîner leur entraîneur, c'est-à-dire à le questionner.
Pas juste dans le sens l'élève vers l'entraîneur. D'accord.
Sinon, on va être dans une logique de maître-élève, de créer des bons élèves. Nous, on veut aller plus loin que ça.
Oui, parce que votre objectif, c'est vraiment que ces jeunes apprennent à mieux grandir, en fait. C'est ça que vous recherchez vraiment ?
Oui, on ne peut pas être ambitieux en créant des bons élèves qui disent oui à tout, qui sont très gentils, mais qui n'ont pas de personnalité. Nous, on les pousse, on les soutient dans cette idée d'avoir du caractère, parce que si on veut former des très bons joueurs, il faut qu'ils aient du caractère. Développer du caractère, c'est aussi savoir dire non, savoir dire pourquoi, savoir dire ok, mais... Dans tous les cas, ça ne peut pas être la personne qui est juste gentille, parce que c'est une valeur d'être gentil. Mais nous, on veut des gentils qui sortent les dents quand il faut aller sur le terrain.
À l'instant T et pour performer et être au plus haut niveau, c'est ça ?
Oui, c'est un chemin qui est très long, mais qui se construit au quotidien. C'est pour ça aussi qu'on a besoin d'être exigeant avec eux. Mais comme on dit en anglais, avec « tough love ».
Ah.
C'est-à-dire, je suis dur avec toi, mais je reste humain. Or, dans le coaching, dans le management, on est dans une période où on parle beaucoup d'harcèlement. On voit parfois des gens qui sont compétents, mais très, très durs, trop durs. Ou on voit des gentils, mais qui n'ont pas de main de fer dans un gant de velours.
De velours, exactement. Pour terminer, j'aimerais vous lire cette phrase extraite du livre dont nous avons parlé, donc vous avez coécrit avec François Ducasse, « Champion dans la tête » et paru aux éditions de l'Homme en 2016. Il s'agit là d'un hommage adressé à un adversaire. « Ta combativité me donne de la force, ta volonté me donne du courage, ton défi m'inspire. » Merci Makis pour cet échange.
Merci Christelle.
Vous nous avez bien démontré que si les champions sont complexes, ils partagent néanmoins des codes d'honneur qu'ils ont définis par rapport à eux-mêmes. Ces valeurs essentielles qu'ils ont développées sont identiques pour les amateurs et permettent d'être en adéquation avec soi-même, de se fixer des objectifs élevés, de se transcender pour atteindre la performance. De nombreuses pistes ont été évoquées pour la travailler et il ne nous reste plus désormais qu'à les mettre en pratique. D'ici là, bon parcours intérieur.